à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
François de Berthier, bonjour.
Bonjour.
François de Berthier, merci d'être venu pour une série de trois émissions avec nous. Je trouve que vous avez un parcours qui va intéresser nos auditeurs à plus d'un titre. D'abord, vous êtes père de famille, vous avez combien d'enfants ?
Deux enfants, deux filles.
Deux filles. Et vous êtes de quelle paroisse ?
Du Christ-Roi.
Du Christ-Roi. Vous êtes assez actif, m'a-t-on dit. Dans votre vie professionnelle, puisque depuis un peu de temps vous êtes à la retraite, vous avez une caractéristique, c'est que vous êtes dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire que vous avez passé 40 ans de votre vie professionnelle à diriger des entreprises, deux entreprises principalement, l'une dans l'industrie pharmaceutique pendant à peu près 20 ans, je raccourcis, l'autre dans le transport et la logistique pendant à peu près 20 ans. Et puis, parallèlement à ça, vous avez également mené une activité de consultant en stratégie et de formateur en stratégie, puisque vous avez longtemps donné des cours à la Toulouse Business School, l'école de commerce de Toulouse, dont vous étiez vous-même issu à l'origine. Donc, cette vie de chef d'entreprise est toujours intéressante parce que c'est toujours intéressant de voir comment on peut concilier une foi chevillé au corps, ce qui est votre cas, avec des contraintes d'entreprise. Et donc, c'est sur ce premier thème que je voudrais qu'on commence à débattre ensemble et que vous m'expliquiez comment vous avez fait pour, au fond, arriver à intégrer cette dimension contrôle du compte de résultat, les yeux tournés sur la rentabilité et en même temps le message de l'évangile qui est tout différent, qui est celui de la fraternité, de l'écoute. Et comment vous avez fait ?
Alors, je dirais qu'avant d'être dirigeant, on est entrepreneur. C'est une notion importante parce que ça veut dire qu'on a envie de bâtir un projet, de construire une offre, de créer quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est le rôle de tout homme. Il est là pour inventer des réponses et trouver des solutions par rapport aux différentes difficultés qui sont rencontrées par leurs congénères. Donc, sur le plan du principe de départ, il n'y a pas d'incompatibilité avec une foi et avec une croyance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, une caractéristique du chef d'entreprise, c'est qu'il est là pour créer de la richesse. C'est ça, c'est quelque chose qui n'a pas senti bon, souvent. Quand on disait ça, on dit « Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sent mauvais. » Non. Créer de la richesse, ça veut dire on part d'une matière première et on en fait un produit fini qui vaut beaucoup plus cher. Et toute la problématique va être de savoir qu'est-ce qu'on fait de la
valeur ajoutée,
du bénéfice qu'on va avoir récolté.
Ouais.
C'est là que peuvent se poser des problèmes. Et si on est dans une démarche logique, on a envie de faire adhérer à l'offre qu'on a construite nos collaborateurs, puisqu'on ne travaille pas tout seul, c'est eux qui sont opérationnels. Et pour qu'ils adhèrent à ça, il faut qu'ils aient un retour, il faut partager aussi les résultats. Et moi, j'ai toujours partagé, j'ai fait rentrer dans le capital de mes sociétés des collaborateurs, on a partagé des résultats, on a mis en place des primes de qualité au fur et à mesure, et c'était quelque chose qui a permis qu'il n'y ait pas de barrière, de rupture entre mes principes, mes concepts, et puis la vie de l'entreprise qui est là pour gagner de l'argent, parce que si elle ne gagne pas d'argent, elle meurt.
Mmh.
On a besoin d'investir chaque année. Et par contre, détail en passant, quand mes collaborateurs me présentaient le plan d'investissement de leur service, je leur disais toujours, je tiens à ce qu'il y ait 10% du montant des investissements qui soit réservé pour l'amélioration des conditions de travail.
Ah.
Ah, oui, mais moi, je n'ai pas d'idée là-dessus. Mais tu en trouves. Et on cherche. Et ça faisait qu'ils étaient obligés de parler des investissements avec leurs subalternes, tous les gens qui travaillaient avec eux, et de rentrer dans une démarche qui était collaborative. C'est ça, le secret. Pour moi, il y a un maître mot d'abord dans l'entreprise, c'est le partage des analyses. Si on n'est pas capable, mais d'ailleurs dans n'importe quelle organisation, oui. Et on le voit en politique aussi sur un pays.
Dans toutes les associations, même à but non lucratif, oui.
Si on n'est pas capable de partager une analyse, de s'asseoir côte à côte à un moment donné, au lieu d'être toujours face à face, et de dire qu'est-ce que tu vois là ? Tu regardes par la fenêtre, tu vois quoi ? Alors l'un va vous dire, ben, je vois le mur d'en face. L'autre va dire, moi je vois l'arbre. Le troisième va dire, oui mais il y a deux oiseaux là qui sont en train de se bécoter sur la branche. Voilà. Donc on s'aperçoit que chacun d'entre nous a des visions qui sont complémentaires de l'autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on balaye tout ça et on décrit un paysage, une situation, un état des lieux. Et à partir de ça, on bâtit un plan de progrès. Il n'y a rien de plus motivant.
Oui, mais tout ça, c'est facile à imaginer quand l'entreprise est en croissance, en développement. Mais est-ce que vous avez eu à gérer des plans sociaux ?
Bien sûr.
Et alors ?
Bien sûr.
C'est plus compliqué.
Ben, c'est difficile, mais c'est là que si on a eu une transparence dans les bons jours, ce sera beaucoup plus crédible et on gardera la confiance dans les mauvais jours. Effectivement, j'ai eu à licencier beaucoup de gens dans ma carrière parce qu'on a eu des périodes difficiles, on a traversé des crises, on a eu des clients importants qui nous ont quittés à certains moments. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, c'est là qu'on s'explique. Et puis, on peut aussi sincèrement dire à quelqu'un, voilà, on est obligé d'en passer par un licenciement aujourd'hui, mais vous restez dans nos fichiers et dès qu'on a une opportunité, si bien sûr le collaborateur a été correct et efficace, vous restez dans nos fichiers et dès qu'on a une nouvelle opportunité, on vous fait signe. Il faut avoir un niveau de confiance et s'il y est, ben, c'est possible. Alors, ça n'a pas toujours été évident parce que j'avais en face de moi un syndicat quand j'ai été nommé la première fois en 80 comme directeur général dans un laboratoire photographique, hein, c'était pas pharmaceutique.
Oui, ah, j'ai dit pharmaceutique, pardon.
C'est pas grave.
Mais, excusez-moi pour le
là, ça a été très dur, en 80, 83 en particulier, je me rappelle. On a eu une grève qui a duré 13 jours, j'ai été séquestré dans mon bureau. Ça a été très, très difficile à vivre, mais ça oblige à se regarder autrement. Et je me rappelle un consultant qui était venu me voir, qui m'avait dit, est-ce que tu sais quelle image tu as de ton personnel ? Tu as auprès de ton personnel. Je ne sais pas, mais je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Ah, tu as tort, me dit-il. Réfléchis-y, je reviens te voir demain. Pendant ce temps, il y avait la grève.
Ah oui.
Inutile de vous dire que la journée...
Et vous étiez séquestré dans le bureau.
J'étais enfermé dans le bureau, voilà. Avec deux planches qui étaient clouées en travers.
Wow.
Je l'ai fait constater par huissier parce que...
Oui.
Au bout d'une journée de séquestration, j'en ai eu marre. J'ai sauté par la fenêtre, je n'étais qu'au premier étage. J'avais quelques années de moins, donc c'était plus facile. Et j'ai été chercher un huissier pour faire constater ce qui m'était arrivé.
Et donc là, ça s'est fini comment ? Alors, par la discussion ou par... il y a un moment où c'est comme ça, on n'est pas d'accord et de toute façon, il n'y a pas le choix.
Là, ça avait été assez compliqué et ça s'est fini par le fait qu'on était donc prestataire de service. Nous, on recevait des pellicules à développer toutes les nuits et on avait 24 heures pour faire ce travail et renvoyer les pellicules développées chez les photographes. Et comme je voyais qu'il y avait un blocage véritable, que ceux qui au début ne faisaient pas grève avaient été enrôlés presque de force par les grévistes... Il m'est venu une idée, un après-midi, qui a été d'appeler les 150 clients que je connaissais le mieux. Et je leur ai dit, est-ce que vous seriez d'accord pour venir passer la nuit avec moi, au laboratoire, pour qu'on relance la production ?
Ils ont accepté.
Et on était 250. On était 450 l'effectif d'entreprise. Et donc cette première nuit, on était 250 dans le labo. Alors évidemment, ils ne savaient pas trop quoi y faire. Mais on a relancé la production. Ça a été un moment extraordinaire au point de vue intimité des relations, au point de vue humain, etc. Et la production est sortie. Et comme les chauffeurs ne faisaient pas grève, on a pu renvoyer les tournées de livraison en place et remettre en mouvement.
Et alors les salariés n'ont pas hurlé. Oui.
Mais j'aurais dit, écoutez, on a le droit de faire une. Vous voulez pas travailler avec nous, c'est pas grave. On fait une coopérative ouvrière maintenant, vous voyez. On va faire une société en participation avec les clients. On va changer le statut. Vous voyez, j'ai pas embauché un autre salarié. C'est chaque client qui est propriétaire des bobines qui sont à développer ici dans le laboratoire. Qui va participer à la production. On est en coopérative maintenant, c'est fini, on ne sera plus en société anonyme.
Et alors ?
Ça a duré 24 heures, puis après ça, ils m'ont dit, bon, on est prêt pour revenir négocier. et on a négocié, on a trouvé un terrain de sortie.
Oui, la vie de chef d'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Non, non, et puis il faut savoir reconnaître par moment, humblement, qu'on n'est pas le plus fort, qu'on n'est pas le plus intelligent. Et c'est pour ça que j'ai découvert petit à petit cette notion de partage des analyses qui est très importante. Et là, j'avais été trop vite pour faire une réforme du travail, de l'organisation du travail, qui n'avait pas donné lieu à une concertation suffisante au départ. On n'est pas maître à bord absolu, quoi, je veux dire. Hein. C'est évident qu'aujourd'hui, les gens veulent comprendre pourquoi ils font quelque chose, à quoi ça aboutit, qu'on commente les résultats ensemble, qu'on s'explique dessus, et qu'à partir de ce moment-là, ben, tout le monde y trouve son compte.
Ouais. Donc cette idée, cette notion presque gaullienne, si je puis dire, parce que qui est celle du partage des résultats, est en même temps une notion qui va plus loin et qui est aussi une partage des difficultés, des efforts. Et peut-être que dans les difficultés, on a tendance à dire voilà la solution. À ce moment-là, on partage plus. C'est ce comme vous me dites au fond. Et le jour où vous avez commencé à partager la vision avec eux et à essayer de trouver des solutions avec eux, vous y êtes arrivé. Bon, j'imagine que c'est facile à dire avec le recul, c'est difficile à vivre sur le
oui,
moment.
Oui, parce qu'on n'a pas la même origine, on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes principes de vie, on n'a pas les mêmes religions, bien ouais. évidemment. Donc effectivement, il y a des moments où on part pas de la même planète.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on arrive à se retrouver à un moment donné. C'est ça, il y a une convergence. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire converger les points de vue ? Et là, c'est effectivement un travail permanent qui est à faire et qu'on va développer ailleurs, d'ailleurs dans la constitution des équipes. J'ai beaucoup travaillé avec des psychologues et des morphopsychologues d'ailleurs aussi pour constituer les équipes, pour voir que il fallait créer une harmonie jusqu'au niveau de l'équipe qui est toujours d'une dizaine, douzaine de personnes. Et au sein de l'équipe, si on n'arrive pas à avoir une relation bienveillante, pacifique dans l'équipe, et bien à un moment donné, ça va dégénérer. Donc ça se construit brique par brique. Et quand on a robotisé l'entreprise, d'ailleurs, ouais. ça a été pareil. À un moment donné, on a mis des robots en place, des robots filoguidés pour distribuer le travail dans l'entreprise. Au début, ça a été très très mal vu. Et puis, après ça, petit à petit, les gens ont découvert que ça, finalement, on leur a mis des podomètres à la ceinture. Et on a dit, tu as vu, avant, tu faisais 7 km par jour dans l'entreprise. Et là, maintenant, tu n'en fais plus que 3. Donc finalement, tu vois, le robot filoguidé, on avait appelé Léon, en plus, il t'a aidé dans ton travail.
Bien, François de Bercier, merci pour ce témoignage qui montre au fond comment au quotidien on peut vivre les messages de l'Évangile, les messages du Christ, tout en ayant une activité qui vise à préserver la création de richesses, parce que comme vous l'avez très bien dit au début, s'il n'y a pas de création de richesse, il n'y a pas grand-chose à partager. Donc, encore faut-il, c'est la base de tout, et qu'il y ait cette création de richesse et qu'elle se fasse dans les meilleures conditions. Merci pour ce témoignage, François de Vertier.
Avec grand plaisir.